Solder le passé, construire la justice, l'impôt exceptionnel sur le capital privé. Il faut souligner que les prélèvements exceptionnels sur les propriétés privées avaient déjà été expérimentés au lendemain de la Première Guerre mondiale pour réduire la dette publique dans de nombreux pays européens, en particulier en Italie, en Tchécoslovaquie, en Autriche et en Hongrie, entre 1919 et 1923, avec des taux allant jusqu'à 50% sur les patrimoines les plus élevés. L'une des ponctions les plus massives et les plus efficaces, en termes de recettes collectées, semble avoir été le prélèvement exceptionnel appliqué au Japon en 1946-1947, avec des taux s'élevant à 90% pour les portefeuilles les plus importants. L'impôt de solidarité nationale, adopté en France en 1945, relève également de cette catégorie, même si les recettes étaient destinées au budget général et non pas spécifiquement à réduire la dette. Par comparaison à l'inflation, qui ampute toutes les liquidités de façon proportionnelle, celles des plus pauvres comme celles des plus riches, l'avantage de ces prélèvements exceptionnels sur les propriétés privées est qu'ils offrent beaucoup plus de latitude pour répartir la charge. D'une part, car ils ont recours à des taux variables suivant l'ampleur de la fortune, avec le plus souvent une exemption totale des plus faibles patrimoines, des taux de l'ordre de 5-10% pour les propriétés moyennes et de 30-50% pour les grandes fortunes, voire davantage, et d'autre part, car ils s'appliquent généralement à la totalité des actifs privés, qu'ils soient immobiliers, terriens, professionnels ou financiers. En pratique, l'inflation s'apparente à une forme de prélèvement régressif sur les patrimoines. Ceux qui ne détiennent que quelques liquidités en billets ou en dépôts bancaires sont frappés de plein fouet, alors que les patrimoines plus importants, qui sont pour la plupart placés dans des biens immobiliers et professionnels ou des portefeuilles financiers, pour les plus élevés d'entre eux, échappent pour une large part aux effets de la hausse des prix, sauf si d'autres mesures, comme le blocage des loyers et des prix des actifs, sont également mises en œuvre. Concernant les actifs financiers, les obligations et autres placements fixes sont frappés par l'inflation, à commencer par les titres de la dette publique eux-mêmes. Mais les actions, parts de sociétés et autres placements à cours variable, qui sont les plus prisés des plus grandes fortunes, échappent souvent à la ponction inflationniste, car leurs valeurs tendent à suivre la hausse générale des prix. Plus généralement, le problème de l'inflation est qu'elle répartit les gains et les pertes de façon relativement arbitraire, en fonction de l'identité de ceux qui ont réussi à réallouer leurs avoirs dans les bons actifs au bon moment. L'inflation est le signe d'une société qui fait face à un lourd conflit distributif. Par exemple, car elle souhaite se débarrasser de certaines créances léguées par le passé, mais qui ne parvient pas à débattre à ciel ouvert de la meilleure façon de répartir les efforts demandés aux uns et aux autres, et préfère s'en remettre aux caprices des prix et de la spéculation. Le risque évident est de créer un immense sentiment d'injustice. De ce point de vue, il n'est pas surprenant que tant de pays aient entrepris d'avoir recours à des prélèvements exceptionnels sur les propriétés privées afin de réduire le poids des dettes publiques à l'issue des conflits de 1914-1918 et 1939-1945. Il ne s'agit pas d'idéaliser ici ces expériences, qui reposaient sur des administrations insuffisamment préparées pour de telles tâches, à des époques où il n'existait aucune des technologies de l'information dont nous disposons actuellement. Il reste que ces prélèvements ont fonctionné et ont contribué à éteindre rapidement des dettes publiques considérables et à favoriser des trajectoires exceptionnellement réussies de reconstruction sociale et de croissance économique, par exemple au Japon et en Allemagne. Dans le cas allemand, il paraît clair que les prélèvements exceptionnels sur les patrimoines privés mis en place en 1949-1952 et qui se sont appliqués jusqu'aux années 1980 ont constitué une bien meilleure façon de réduire la dette publique que ne l'avait été l'hyperinflation des années 1920, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue social et démocratique. Au-delà des aspects techniques et administratifs, il faut souligner enfin l'ampleur des transformations politico-idéologiques que révèlent ces expériences. On peut certes trouver de multiples exemples d'annulation de dettes publiques et privées tout au long de l'histoire, depuis les temps les plus reculés. Mais il faut attendre le XXe siècle pour que des systèmes de ponction progressive sur le capital privé soient appliqués à une telle échelle et de façon aussi sophistiquée. À l'époque médiévale, aussi bien que dans l'Europe moderne, les souverains se contentaient de modifier de temps à autre le contenu métallique des monnaies afin d'alléger leurs dettes. À la fin du XVIIIe siècle, lors de la Révolution française, on se mit à débattre explicitement de barèmes progressifs pesant sur les revenus et patrimoines et un système d'emprunt forcé atteignant 70% des plus hauts revenus fut même brièvement appliqué en 1793-1794. Rétrospectivement, ce système paraît prémonitoire de ce qui sera appliqué dans de nombreux pays au XXe siècle à la suite des guerres. Il fut néanmoins insuffisant. Faute d'avoir mis à contribution assez tôt ces classes privilégiées, l'ancien régime avait en effet accumulé une dette publique considérable, de l'ordre d'une année de revenu national de l'époque, voire une année et demie si l'on inclut la valeur des charges et offices, qui était une façon pour l'État d'obtenir des liquidités immédiates en échange de revenus futurs prélevés sur la population, et en ce sens s'apparenter à une forme de dette. Au final, la Révolution française aboutit à la mise en place d'un système fiscal qui mettait fin aux privilèges de la noblesse et du clergé, mais qui était strictement proportionnel et tournait le dos à l'ambition de la progressivité. La dette publique fut fortement réduite par la banqueroute des deux tiers, décrétée en 1797, et par la grande inflation des assignats, bien davantage que par les prélèvements fiscaux exceptionnels. Et c'est ainsi que l'État français se retrouva en 1815 avec une dette insignifiante, moins de 20% du revenu national. Par la suite, la hausse de la dette publique entre 1814 et 1914 fut principalement le fait d'opérations exceptionnelles comme les indemnités de guerre et le milliard des émigrés. Entre 1815 et 1914, les sociétés européennes entrèrent alors dans une longue phase de sacralisation de la propriété privée et de stabilité monétaire, au cours de laquelle l'idée même de ne pas rembourser une dette était considérée comme totalement taboue et inenvisageable. Les différentes puissances européennes avaient certes des mœurs des plus rugueuses, en particulier lorsqu'elles s'imposaient des tribus guerriers les unes aux autres et surtout au reste du monde. Mais une fois qu'une dette avait été fixée, qu'il s'agisse de celle de la France vis-à-vis des monarchies coalisées en 1815 ou de la Prusse en 1871, ou bien des dettes de l'Empire chinois, de l'Empire ottoman ou du Maroc vis-à-vis du Royaume-Uni ou de la France, alors il était essentiel pour le bon fonctionnement du système qu'elle soit payée rubis sur l'ongle, sur la base de l'étalon or, faute de quoi la canonnière entrait en action. Les pays européens pouvaient bien menacer de se faire la guerre et dépenser des ressources considérables pour s'armer les uns contre les autres. Mais dès lors qu'une créance devait être remboursée, les querelles cessaient et les puissances propriétaristes s'accordaient sur le fait que les débiteurs devaient respecter le droit de propriété des créditeurs. C'est ainsi, par exemple, que la tentative de défaut turc en 1875 conduisit immédiatement à la constitution d'une coalition de la haute finance européenne et des États européens pour rétablir les paiements et imposer aux Ottomans le traité de Berlin en 1878. Les défauts de paiement étaient encore relativement courants au XVIIIe siècle. Par exemple, quand la Prusse refusa en 1752 de rembourser l'emprunt silésien aux Britanniques, quoique de plus en plus rare. Ils cessèrent après les répudiations de la Révolution française qui, après bien des hésitations, conduisit de facto au triomphe de la stabilité propriétariste et monétaire en Europe. Un cas particulièrement significatif est celui du Royaume-Uni, dont la dette publique dépassait les 200% du revenu national en 1815 à l'issue des guerres napoléoniennes. Le pays, il est vrai gouverné à l'époque par un mince groupe de propriétaires qui allaient bénéficier directement de cette politique, fit le choix de consacrer pendant un siècle près du tiers des impôts acquittés par les contribuables britanniques, principalement des ménages modestes et moyens compte tenu de la prédominance à l'époque de la fiscalité indirecte, au paiement de cette dette et surtout de ses intérêts, pour le plus grand profit de ceux qui avaient prêté pour financer les guerres, et en particulier pour le bénéfice du centile supérieur de la répartition de la fortune. Cette expérience montre qu'il est certes techniquement possible de réduire une dette publique d'une telle ampleur au moyen d'excédents budgétaires primaires. Ces derniers furent en moyenne compris entre 2 et 3% du revenu national au Royaume-Uni entre 1815 et 1914, à un moment où la totalité des recettes fiscales ne dépassait pas 10% du revenu national et où les ressources totales consacrées à l'éducation étaient inférieures à 1% du revenu national. Il n'est pas sûr cependant qu'une telle utilisation des deniers publics ait été la meilleure stratégie d'avenir pour le pays. En tout état de cause, le problème est qu'une telle méthode a le défaut d'être extrêmement lente. La dette publique britannique dépassait encore 150% du revenu national en 1850 et elle était toujours de 70% en 1914. L'excédent primaire, bien que considérable, permettait tout juste de payer les intérêts et pour réduire le principal, il fallait attendre que la croissance du revenu national fasse sentir ses effets, croissance qui était en l'occurrence pourtant relativement rapide, plus de 2% par an pendant un siècle. Des recherches récentes ont montré que ces paiements ont fortement contribué à accroître les inégalités et la concentration de la propriété au Royaume-Uni entre 1815 et 1914. L'expérience des dettes publiques issues des guerres du XXe siècle montre qu'il est possible de procéder autrement. Des dettes comprises entre 200 et 300% du revenu national en 1945-1950 furent réduites à peu de choses en quelques années dans le cas de la France et de l'Allemagne, et en guère plus de 2 décennies dans le cas du Royaume-Uni, ce qui était lent par comparaison aux voisins franco-allemands, mais autrement plus rapide qu'au cours de la période 1815-1914. Rétrospectivement, avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, il paraît clair que la stratégie de réduction accélérée de la dette était préférable. S'ils avaient suivi la stratégie britannique du XIXe siècle, les pays européens se seraient retrouvés à consacrer de 1950 à 2050 et au-delà de lourds paiements d'intérêts aux anciennes classes propriétaires, au détriment de la réduction des inégalités sociales et des dépenses d'investissement dans l'éducation et les infrastructures qui ont permis la croissance exceptionnelle de l'après-guerre. Mais dans le feu de l'action, ces questions ne sont jamais simples à traiter, car les sociétés en prise avec de fortes dettes publiques doivent arbitrer entre différentes légitimités a priori acceptables, celles des droits de propriété établis dans le passé et celles des groupes sociaux non propriétaires et qui ont d'autres besoins et priorités, souvent sous forme d'investissements sociaux et éducatifs dans l'avenir. Nous reviendrons plus loin sur les enseignements que l'on peut tirer de ces expériences pour résoudre les problèmes posés par les dettes publiques au XXIe siècle. De la chute à une déconcentration durable, le rôle de l'impôt progressif. Nous venons d'analyser les différents mécanismes expliquant l'effondrement de la valeur totale des propriétés privées en Europe entre 1914 et 1945-1950. Cette évolution résulte d'un ensemble de facteurs, notamment sous forme de destruction, d'expropriation et d'inflation, qui ont cumulé leurs effets pour conduire à une chute exceptionnellement forte du rapport entre capital privé et revenu national, qui atteint un point bas autour de 1945-1950, avant un relèvement graduel au cours des décennies suivantes et jusqu'aux années 2010-2020. Il nous faut maintenant mieux comprendre pourquoi cette baisse du niveau d'ensemble des patrimoines s'est également accompagnée d'une forte diminution de la concentration de la propriété, phénomène qui a débuté au cours de la période 1914-1945 et qui s'est poursuivi jusqu'aux années 1970-1980. En dépit de la nouvelle tendance à la hausse observée depuis les années 1980-1990, cette déconcentration des patrimoines, et en particulier la chute de la part du centile supérieur, demeure la transformation la plus marquante dans le long terme. Pourquoi donc la chute du niveau global des patrimoines des années 1914-1950 s'est-elle accompagnée d'une déconcentration durable de la structure de la propriété ? Dans l'absolu, on aurait pu imaginer que la chute initiale concerne tous les niveaux de détention dans des proportions comparables, sans véritablement affecter la part du décile supérieur ou du centile supérieur. Nous avons déjà indiqué plusieurs facteurs expliquant pourquoi les plus hauts patrimoines ont baissé plus fortement que les autres. En particulier, les expropriations d'actifs étrangers ont plus fortement affecté les hauts portefeuilles, qui en proportion en détenaient davantage, et les prélèvements exceptionnels et progressifs sur le capital privé mis en place lors de l'apurement des dettes publiques, ou dans le cadre de prélèvements-sanctions, étaient par construction concentrés sur les niveaux de patrimoine les plus élevés. Outre ces facteurs spécifiques, il faut ajouter un mécanisme plus général. À l'issue de la Première Guerre mondiale et tout au long de l'entre-deux-guerres, les détenteurs de revenus et de patrimoine importants durent faire face à la montée en puissance d'un système permanent d'impôts progressifs, c'est-à-dire un système fiscal appliquant des taux d'imposition structurellement plus lourds sur les personnes disposant de revenus et patrimoine élevés que sur le reste de la population. Des débats à ce sujet avaient eu lieu depuis des siècles, en particulier au XVIIIe siècle et pendant la Révolution française, mais jamais de tel système n'avait été appliqué à grande échelle et de façon permanente. Dans la plupart des pays d'Europe, ainsi qu'aux États-Unis et au Japon, l'impôt progressif se développa sous une double forme. D'une part, un impôt progressif sur le revenu global, c'est-à-dire la somme des revenus des différentes catégories, salaires et traitements, revenus des professions non salariées, pensions, loyers, dividendes, intérêts, royalties, profits et bénéfices de toute nature, etc. Et d'autre part, un impôt progressif sur les successions, c'est-à-dire sur les transmissions de patrimoine de toutes sortes, immobiliers, professionnels ou financiers, au décès ou par donation, suivant des modalités diverses. Pour la première fois dans l'histoire, et de façon quasiment simultanée dans tous les pays, les taux appliqués aux plus hauts revenus et aux plus hautes successions atteignirent durablement des niveaux extrêmement élevés, de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents. L'évolution des taux appliqués au sommet de la hiérarchie des revenus et des successions de 1900 à 2018 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne et en France est indiquée sur les graphiques 10.11 et 10.12 et permet de se faire une première idée de l'ampleur des bouleversements en jeu. En 1900, les taux pesant sur les plus hauts revenus et successions étaient partout inférieurs à 10%. En 1920, il s'est âgé entre 30 et 70% pour les hauts revenus et entre 10 et 40% pour les plus hautes successions. Les taux supérieurs furent légèrement abaissés pendant la courte accalmie des années 1920 avant de repartir à la hausse dans les années 1930-1940, en particulier aux États-Unis après l'élection de Roosevelt en 1932 et la mise en place du New Deal. Dans un contexte où le chômage frappait un quart de la population active et où il fallait augmenter les ressources pour financer les grands travaux et les nouvelles politiques sociales, il paraissait évident qu'il fallait mettre à contribution les catégories les plus favorisées, d'autant plus qu'elles avaient prospéré de façon spectaculaire au cours des décennies précédentes, et notamment des Roaring Twenties, tout en menant le pays vers la crise. Entre 1932 et 1980, le taux applicable aux plus hauts revenus fut en moyenne de 81% aux États-Unis. Sur cette même période, le taux applicable aux plus hautes successions était de 75%. Précisons que sont uniquement pris en compte ici les taux de l'impôt fédéral sur le revenu et les successions, auxquels il faut ajouter en pratique les impôts appliqués par les États, avec des taux additionnels pouvant atteindre de l'ordre de 5-10% suivant les périodes. Au Royaume-Uni, où la dépression conduisit également à une profonde remise en cause des élites économiques et financières, le taux appliqué entre 1932 et 1980 fut en moyenne de 89% pour les plus hauts revenus et de 72% pour les plus hautes successions. En France, lorsque les parlementaires se résolurent finalement à mettre en place un impôt progressif sur le revenu, dans le cadre de la loi du 15 juillet 1914, le taux le plus élevé n'était que de 2%. Les élites politiques et économiques de la Troisième République avaient longtemps refusé une telle réforme, qu'elle jugeait nuisible et inadapté à un pays aussi égalitaire que la France, non sans une bonne dose d'hypocrisie et de mauvaise foi. Puis le taux supérieur fut augmenté pendant la guerre, avant d'être porté à 50% en 1920, 60% en 1924 et même 72% en 1925. Il est particulièrement frappant de constater que la loi décisive du 25 juin 1920, qui institua le taux de 50%, fut adoptée par la Chambre Bleu Horizon, l'une des chambres les plus à droite de toute l'histoire de la République, et la majorité dite du Bloc National, c'est-à-dire par une majorité constituée pour une large part des groupes parlementaires qui, avant la guerre, s'étaient le plus farouchement opposés à la création d'un impôt sur le revenu avec un taux supérieur de 2%. Ce revirement complet des députés situés dans la partie droite de l'échiquier politique s'explique notamment par la situation financière désastreuse héritée de la guerre. Au-delà des discours rituels sur le thème « l'Allemagne paiera », tout le monde se rendait bien compte qu'il était indispensable de trouver des recettes nouvelles. Dans un contexte où les pénuries et le recours à la planche à billets avaient porté l'inflation à des niveaux inconnus avant la guerre, où les salaires ouvriers n'avaient toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat de 1914 et où plusieurs vagues de grèves menaçaient le pays de paralysie en mai-juin 1919, puis de nouveau au printemps de 1920, la couleur politique importait finalement assez peu. Il fallait trouver des ressources, et personne n'imaginait que les titulaires de hauts revenus soient épargnés. C'est dans ce contexte politique et social explosif, marqué aussi par la révolution bolchevique de 1917, à laquelle une large part du mouvement ouvrier et socialiste français venait de se rallier, que l'impôt progressif changea de nature. Ces chocs fiscaux très lourds eurent pour effet d'amplifier et surtout de pérenniser l'effet des autres chocs subis par les hauts patrimoines au cours de la période 1914-1945. De fait, tous les éléments dont nous disposons aujourd'hui suggèrent que cette innovation fiscale radicale constitue l'un des principaux facteurs expliquant pourquoi la chute du niveau global des patrimoines s'est accompagnée d'une déconcentration durable de leur répartition. Cette explication fiscale permet également de mieux comprendre pourquoi la réduction des inégalités patrimoniales s'est déroulée de façon graduelle, au fur et à mesure que les revenus et donc les capacités d'épargne et de reconstitution de patrimoine important étaient amputés par la montée en puissance de l'impôt sur le revenu, et que les transmissions patrimoniales les plus hautes étaient amoindries au fil des générations et des transmissions. Des recherches récemment menées dans les archives successorales parisiennes de l'entre-deux-guerres et l'après-Seconde Guerre mondiale ont permis de mettre à jour ce processus au niveau individuel. À la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, les 1% des Parisiens les plus riches en patrimoine bénéficiaient grâce aux revenus de leurs propriétés, dividendes, intérêts, loyers, etc., d'un niveau de vie moyen de l'ordre de 30 à 40 fois le salaire moyen de l'époque. Les impôts payés sur leur succession, comme sur leurs revenus, ne dépassaient pas 5%, et ils pouvaient se contenter d'épargner une fraction limitée des revenus issus de leur propriété, entre un quart et un tiers, pour transmettre un patrimoine en croissance suffisamment forte pour que la génération suivante puisse bénéficier du même niveau de vie, relativement au salaire moyen lui-même en croissance. Tout changea subitement à l'issue de la Première Guerre mondiale. Compte tenu des chocs subis pendant la guerre, expropriation d'actifs étrangers, inflation, blocage des loyers, et des nouveaux impôts sur les revenus, dont le taux effectif atteignit dans les années 1920 environ 30-40% pour les 1% des Parisiens les plus riches et plus de 50% pour les 0,1% des Parisiens les plus riches, le niveau de vie de ce groupe s'écroula autour de 5-10 fois le salaire moyen. Dans ces conditions, il devint matériellement impossible, même en réduisant drastiquement ses dépenses et en licenciant une bonne partie des domestiques, dont le nombre chuta d'ailleurs considérablement dans l'entre-deux-guerres, alors qu'il était stable avant la guerre, de reconstituer une fortune comparable à celle d'avant 1914. D'autant plus que les taux effectifs d'impôt sur les successions subis par ce groupe s'élevèrent graduellement à 10-20% dans les années 1920 et près de 30% dans les années 1930-1940. Cela ne signifie certes pas que toutes les familles concernées aient fini ruinées. De même qu'à l'époque de Balzac, du père Goriot et de César Birotteau, tout dépend des investissements réalisés et des rendements obtenus, plus ou moins juteux et particulièrement volatiles en cette période d'inflation, de reconstruction et de crise à répétition. Certains ont pu s'enrichir et perpétuer leur niveau de vie. D'autres, au contraire, ont voulu le maintenir trop longtemps et se sont retrouvés à dilapider leurs avoirs à vitesse accélérée, faute d'avoir accepté à temps que leurs revenus ne leur permettaient plus de vivre sur le même pied qu'avant-guerre. Ce qui est certain, c'est qu'il était inévitable, en raison des nouveaux impôts progressifs mis en place sur les plus hauts revenus, qui en pratique étaient surtout les plus hauts revenus du patrimoine et les plus hautes successions, que la position moyenne de ce groupe social s'effondre entre 1914 et 1950 et continue de s'abaisser par la suite, sans possibilité matérielle de reconstitution des niveaux précédents, quels que soient les taux d'épargne pratiqués et la rapidité de l'ajustement du niveau de vie.